Donc, bienvenue à tous sur le podcast Hypercroissance, l'édition du jeudi, l'édition de discussion d'affaires. Je suis avec mon bon ami Jonathan Léveillé, encore une fois aujourd'hui, qui est avec moi pour parler business. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Salut Antoine, ça va super bien. Et toi?
Ça va bien. Heureux de te retrouver pour parler affaires. On a quelques sujets qu'on avait sur la table aujourd'hui. Le sujet d'ailleurs numéro un, c'était celui de Peloton. Peloton, pour les gens qui ne connaissent pas l'organisation, c'est une entreprise qui, à la base, vendait des bicycles à domicile, des bicycles pour faire de l'exercice que tu es capable de faire de chez toi avec d'autres personnes partout à travers le monde qui peuvent utiliser la même application et voir que d'autres personnes sont en train de faire des courses aussi en même temps que vous. Certaines compétitions peuvent s'installer. Une organisation qui a quand même grandi à travers le temps. Ils ont augmenté leur éventail de services. Ils ont eu des hauts et ils ont eu quelques bas récemment. Et quand je dis bas, peut-être que le mot est faible. On va en parler un petit peu plus tard. Et ça a amené certains changements au niveau administratif de l'organisation, dont le départ qui s'est déroulé très récemment du CEO. On va en parler un petit peu plus tard. Mais avant, Jonathan, je voulais te partager aujourd'hui une découverte d'un entrepreneur qui m'a totalement fasciné. Je me suis dit, peut-être ça pourrait être intéressant pour l'audience aujourd'hui. Est-ce que tu es peut-être à l'aise qu'on en parle un petit peu avant de rentrer dans l'histoire de Peloton?
Absolument, Antoine, on t'écoute.
Écoute, un peu comme toi, là, je suis un maniaque du monde des affaires et on a un podcast ici, on parle sur hypercroissance, mais pour faire du podcasting, et je le dis aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est bon d'aller écouter d'autres podcasts pour voir comment qu'on peut s'améliorer, pour voir ce qui se fait ailleurs et pour voir également c'est quoi l'angle qu'au final on est capable de donner à notre propre podcast. Bref, tout ça pour dire que très récemment, j'écoutais l'excellent podcast que tu connais très bien, je crois, Jonathan, How I Build This. Je pense même, si ma mémoire est bonne, que c'est toi qui m'as parlé de ce podcast-là la première fois. Tu m'avais dit, Antoine, t'as une bonne approche avec le podcast Hypercroissance, c'est le How I Build This québécois. Il me semble que tu m'avais dit quelque chose du genre.
Je pensais même que tu étais inspiré de ce qui avait été fait aux États-Unis parce que la formule Hypercroissance, c'est un peu effectivement le How I Build This, mais québécois ici ou francophone.
Écoute, puis quand tu m'as dit ça, moi, je ne connaissais pas le podcast How I Build This. Bon, ça fait peut-être 2 ans que tu m'avais dit ça, là, la première fois qu'on s'était rencontrés. Après, j'avais commencé à l'écouter et j'ai été complètement jeté à terre par la qualité de contenu, la qualité de recherche, la qualité musicale qui est intégrée à ce balado-là. Bref, c'est de la très, très grosse production et on voit qu'il y a une équipe assez robuste là, derrière ce podcast-là. Allez jeter un petit coup d'œil si vous avez jamais entendu. Ça me surprendrait parce que vous êtes du monde d'affaires, donc vous devez l'écouter. Beaucoup d'invités sur le podcast nous ont dit que c'était leur podcast favori. Bref, Jonathan me parle de ce podcast-là il y a 2 ans de ça et ça devient un des podcasts favoris. Et il y a à peu près 1 an de ça, j'ai eu la chance d'écouter un podcast avec Mark Lorry. Et c'est de cet entrepreneur-là que je veux vous parler aujourd'hui, Mark Lorry, qui, bon, pour la petite histoire, c'est un entrepreneur qui a réussi beaucoup et souvent et à vitesse grandiose, on pourrait dire ça. Première organisation de taille qu'il crée, il la lance et en l'espace de 8 ou 9 mois, il lève, je pense, à peu près 5 millions de dollars. Et finalement, l'idée lui plaît pas tant que ça. Donc, il vend l'organisation 1 an plus tard pour 5,7 millions. Personne n'a perdu de l'argent, c'est une première exercice en affaires, pourquoi pas. Il se lance par la suite dans un projet un petit peu plus grandiose, Diapers.com. Diapers.com qui, au début des années 2000, c'est pas compliqué, vendait des couches pour bébés en ligne, un site qui a grandi comme pas possible. Il faisait énormément de chiffre d'affaires, mais une organisation, une catégorie de business très difficile d'aller chercher de la profitabilité. T'es sur du très, très gros volume. Les marges sont basses. Donc, tu te bats contre d'autres joueurs qui vendent des produits similaires et tu te bats sur le prix. Et quand on parle de prix et de vente en ligne, il y a un joueur qui aime ça s'intégrer à tout ça. Ce joueur-là, c'est Amazon. Et finalement, peut-être je vous mettrai également le lien de l'épisode dans les notes. Il y a eu une guerre là, assez prononcée entre les deux joueurs, donc Diapers.com et Amazon, qui à l'époque avaient lancé un site web relié à la vente de couches en ligne. Une guerre que finalement Diapers.com ne pouvait pas gagner. Donc, une acquisition, une transaction s'est faite. Diapers.com a été acheté par Amazon, 500 000 000 $. Mark Lorry a eu à faire un exit, ou plutôt un earn-out de 2 ans dans Amazon pour sortir de ce earn-out-là et revenir en lançant une organisation similaire, compétitrice à Amazon, se nommant Jet.com. Et encore une fois, quand je vous parle de fréquence accélérée, là, eh bien lui, il lance Jet.com. En 18 mois, il lève 800 millions de dollars et vend 18 mois plus tard à Walmart pour 3,3 milliards. C'est un peu impressionnant des lancements d'organisations, des ventes, des lancements de... Moi, quand j'écoutais ça, Jonathan, je me disais, ben voyons donc, c'est qui lui? T'avais-tu déjà entendu parler de Mark Lowry avant que je t'en parle brièvement avant l'enregistrement d'aujourd'hui?
J'avais jamais entendu parler de lui, mais c'est tellement impressionnant de voir quelqu'un qui est capable de faire ça à répétition comme ça et à chaque fois d'augmenter les chiffres, autant en valorisation qu'en earn-out final que cette personne-là va chercher, et de raccourcir en plus les cycles par après, parce qu'en quelques mois, partir un équivalent d'Amazon, compétiteur à Amazon, et réussir à amener ça une valorisation assez élevée, vendre ça à une grande organisation comme Walmart, juste ça, c'est un exploit en soi. Puis là, ça s'arrête pas là, l'histoire, parce que de ce que je comprenais, je pense, Antoine, il arrive d'autres choses après ça.
Non. Mais en tout cas, puis c'est la première chose que je veux dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est on pense petit, Jonathan et moi. Oui. Rien nous enlever à notre niveau d'ambition, là, on aime parler d'affaires, mais c'est quand j'écoute des gens comme ça parler que je me rends compte, wow, OK, je me remets un petit peu en doute, là, je me dis, ben voyons donc, est-ce que je pense assez gros, tout ça. Donc, je pense que c'est bon, peut-être, première chose pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, de tout le temps d'écouter un maximum d'histoires de d'autres entrepreneurs qui ont réussi avant vous dans des contextes, là, on utilise le terme souvent en anglais 10X, donc 10 fois ce que vous avez fait, pas nécessairement pour vous comparer négativement, mais juste pour voir c'est quoi les opportunités qui peuvent s'offrir à vous si vous pensez un petit peu plus grand. Moi, personnellement, en l'écoutant, j'ai tout de suite pris le cahier de notes. Je me suis fait des mémos sur mon organisation, sur des trucs que je peux changer, sur ma manière de voir les choses. Et je pense que ça aide, peu importe qu'on soit dans la même catégorie ou non, d'écouter des gens qui ont des visions grandioses et qui changent le monde. Je pense que c'est jamais mauvais pour n'importe quel entrepreneur. Bref, vas-y, oui.
Il y a quelque chose, par contre, qui semble être similaire d'un entrepreneur à l'autre qui font un effet de levier comme ça avec leur première organisation puis les autres d'après, parce qu'on le voit entre autres aussi dans l'histoire d'Elon Musk là, qui était chercher un petit peu d'argent avec PayPal au départ, puis après ça, il va dans d'autres histoires qui sont plus grandes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, un coup, qui ont réussi à aller chercher leur sécurité financière. On voit vraiment de quel bois ils chauffent, puis après ça, est-ce qu'ils sont vraiment là parce qu'ils sont passionnés de bâtir quelque chose de toujours plus grand. Puis, si on regarde justement la personne que tu parlais, Mark Lowry, on regarde également Elon Musk, qui a quand même été chercher leur sécurité financière initiale. Après ça, ils remettent tout en jeu de A à Z, même leur propre sécurité financière qui ont été cherchée, parce que si on regarde Elon Musk, entre autres, là, si on va creuser un peu son histoire, c'est fou à combien de reprises qu'il a tout remis ses billes dans le jeu, juste parce qu'il croyait vraiment, même sa partie qui aurait dû sécuriser, qui est sa sécurité financière qu'il a acquis avec ses premières entreprises. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que ce genre de personne-là fait, Mark Lowry, de dire j'ai été chercher un certain montant au départ, mais je remets pratiquement toutes mes billes en jeu pour aller grossir et aller encore plus gros et encore plus gros. C'est vraiment impressionnant. C'est des gens, d'après moi, qui ont une capacité à prendre des risques ou à tolérer les risques qui est assez incroyable au bout de la ligne. Et c'est peut-être là que quand moi je regarde ça en tant qu'entrepreneur, je me dis, est-ce qu'on risque assez un coup qu'on a acquis une certaine fondation financière? Est-ce qu'on devrait risquer plus? Est-ce que ça ferait du sens? Puis là, après ça, il y a toute une logique morale aussi de dire pourquoi qu'on le fait, puis est-ce qu'il faut vraiment le faire aussi au bout de la ligne? Mais j'ai l'impression que ces gens-là sont all-in, là.
Exact. Puis je pense, effectivement, tu le dis, ça revient à l'entrepreneur à la fin de la journée de se poser des questions sur qu'est-ce qui est confortable à faire? Qu'est-ce qui n'est pas confortable à faire? Qu'est-ce qu'il a envie d'accomplir? Mais tout de même, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces entrepreneurs-là, qu'on a parlé un petit peu, Elon Musk, Mark Lowry, bâtissent des grandes organisations, mais des organisations qui changent un petit peu le cours des choses, là, qui changent le cours du monde. Et c'est souvent grâce à ces entreprises-là que le monde change, hein. Et, à un certain point, je pense que c'est bien de voir grand. Puis, je reviens à Mark Lowry et ce qui m'a totalement fasciné de lui. Puis, j'en parle aujourd'hui pour notre audience. Il y a pas une conclusion spécifique, mais je trouve ça tellement intéressant puis important pour les entrepreneurs de pouvoir s'inspirer de d'autres personnes, parce que l'impact que ça a eu sur moi dans les derniers jours est assez exceptionnel, et je me dis peut-être que ça pourrait avoir un impact sur vous. Et Mark Lowry a une vision, Jonathan, et il a même lancé un cabinet d'investissement, une firme d'investissement avec A-Rod, l'ancien joueur de baseball des ligues majeures qui a eu une carrière sensationnelle. Et eux, ils appellent ça le VCP. OK, ben c'est le nom de leur firme, là. Mais ça, c'est la structure de pensée, la structure et l'approche là, de Mark Lowry face à des organisations. Et le VCP va comme suit: Vision, Capital, People. OK? Donc, avoir une vision grandiose, de changer le cours des choses, de changer une catégorie, avoir du capital. Parce que là, bon, les différentes organisations qu'on a mentionnées, c'est pas des organisations qu'on va être capable de faire bootstrap, on va le dire. Et bien entendu, par la suite, les personnes. Et bon, tu l'écoutes, il te rend le tout simple, mais pour essayer de synthétiser ça, il dit un des plus gros enjeux qu'il y a dans le marché présentement, c'est qu'il y a des organisations qui arrivent et qui ont une idée sensationnelle. Mais elles arrivent et pour atteindre leurs ambitions, elles vont lever 250 000 $, 1 million de $ en série. Et finalement, ce capital financier-là ne leur donne jamais la possibilité d'aller à la vitesse de leur ambition parce que, on le sait, de l'argent, 250 000, 1 million de $, ça se dépense vite. Plusieurs écoles de pensée, certains vont dire oui, mais il faut rester frugal, pas dépenser pour dépenser. D'autres vont dire, mais si la vision est grande, mieux vaut y aller tout de suite. Et lui, il se situe dans la deuxième école de pensée. C'est-à-dire, dans tous les cas, là, si on fait l'analyse de ta vision, tu vas avoir besoin de 10, 20, 30, 40, 50 millions de $. Donc, avec son fonds d'investissement, il arrive, Mark Lurie, il dit, moi, ce que je fais, là, je te donne 10 millions aujourd'hui. Ton premier mandat, c'est d'aller chercher les personnes les plus intelligentes au monde qui vont pouvoir t'aider à bâtir cette organisation-là. Et pendant que tu as le 10 millions, tu dois déjà être en train de regarder pour lever 50 millions de $ de plus. Donc, Vision, Capital, People, VCP. Donc, très rapidement, c'est des organisations qui vont chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, de capitalisation pour, bien entendu, avoir une valeur intrinsèque qui monte à travers le temps parce que plus que d'argent qui est investi, plus que des gens de grande qualité également qui sont dans l'organisation, à un certain point, il y a de l'équité, il y a de la valeur qui se crée quelque part. Et lui, c'est ça sa manière de penser, c'est de se dire, écoute, on va lever 10, on va lever 30, on va lever 40 millions et dans le pire des cas, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire une sortie, pas une grande sortie, mais il va y avoir de la valeur qui va intéresser un grand groupe à un certain point à cause de la qualité de gens qu'on a et la qualité de vision qu'on a. Et faut croire qu'il a quand même raison parce que suite à sa sortie de Walmart, où il était le co-CEO, ou plutôt le CEO du commerce électronique chez Walmart, il l'a fait pendant 2 ans, il a lancé 6 autres organisations. Okay? 6 autres organisations. Écoute, les entreprises, encore une fois, je pense que je vais mettre des liens pour chacune de ces organisations-là dans les notes de l'épisode. Mais OK, oui, avant d'avoir lancé ces 6 organisations-là, il est allé acheter l'équipe de basketball de Minnesota, les Timberwolves. Donc, bon, il a fait un petit achat à gauche, une équipe de basketball, et par la suite, il a lancé 6 autres organisations. Et vous allez voir, il est en train de bâtir une nouvelle ville, littéralement, qui va abriter 5 ou 50 millions de personnes d'ici 2050, je pense, ou 5 millions de personnes, un autre type de ville qui n'a jamais existé. Et l'organisation que je veux te parler, Jonathan, qui a vraiment capté mon attention parce que l'épisode de podcast que j'écoutais de How I Build This était autour de cet épisode, c'est l'organisation Wonder. C'est l'organisation Wonder. Écoute, c'est assez exceptionnel. C'est une organisation qui est uniquement présentement installée au New Jersey, aux États-Unis. Et lui, il est parti de la problématique suivante, c'est que pendant la COVID, on l'a vu, les Uber Eats de ce monde, les DoorDash ont explosé. Les gens un petit peu plus jeunes ont aimé la manière de commander et d'avoir de la nourriture rapidement chez eux. Mais la qualité de la nourriture, on s'entend, des fois, ça arrive, c'est un peu froid. On a beau dire qu'on a eu la nourriture rapidement, mais bon, c'est pas la même qualité qu'au restaurant. Et lui, il part de l'idée de se dire, on va bâtir une organisation qui va être le 2.0 de la restauration et on va arriver et on va te cuisiner le plat de ton restaurant préféré devant chez toi. Il est parti de cette vision-là. Et ils ont créé Wonder, qui est uniquement installé au New Jersey présentement. Et dans la manière que ça fonctionne, puis encore une fois, j'invite les gens à aller écouter l'épisode pour en savoir un petit peu plus, mais il y a des cuisines qui se font dans la ville, de la nourriture, qui vont cuisiner de la nourriture des meilleurs restaurants, des meilleurs steakhouse. Et là, ils ont investi tellement d'argent autour de la food science qui fait en sorte que la nourriture est cuisinée. Par la suite, quelqu'un va commander. Il va y avoir un truck qui va arriver devant chez lui directement et ils ont bâti une technologie qui vont prendre la nourriture, la mettre dans un certain four. En 5 minutes, la nourriture va être cuite et elle va être livrée devant ta porte. Donc, ils cuisinent littéralement la nourriture dans un truck devant chez toi. Les plus gros chefs qui font partie de l'exercice en ce moment de cette entreprise-là ont dit, il n'y a aucune différence entre la nourriture qui est livrée devant votre porte et le steak que tu vas avoir dans mon restaurant. Et là, il a été capable, encore une fois, en 6 mois de ça, de lever, je pense, à peu près 500 ou 600 millions de $. Et l'organisation, tenez-vous bien, en 6 mois, a une valorisation de 3,5 milliards de $. Donc, il ne s'arrête pas. Le gars a 51 ans. une personne que je suis, que j'essaie d'écouter tous ses podcasts en ce moment qu'il a donné au cours des dernières années parce que son histoire est exceptionnelle. Allez jeter un coup d'œil à Mark Lurie. On entend souvent les Elon Musk, comme Jonathan a dit, les entrepreneurs qui font les manchettes. Il y en a plein, des grands chefs et chefs d'entreprise. Il y en a des nouveaux à découvrir et je pense que Mark Lurie ne donne pas sa place. Ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil et de faire des recherches sur sa carrière. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenus natifs et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/hypercroissance. HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours.
Je serais curieux, Antoine, tu mentionnais que tu as écouté plusieurs podcasts de Mark Lurie et que ça a changé un petit peu ton mindset dans les dernières journées ou dernières semaines. Est-ce que tu aurais des éléments que tu serais prêt à partager à l'auditoire sur dans ta gestion ou dans ton thinking? En quoi ça t'impacte jusqu'à présent? Je serais curieux.
Bien, clairement, juste le modèle très simplifié de dire, et c'est tellement vrai, que si une organisation, on lui donne, assumant que les fondateurs, que les visionnaires, les entrepreneurs ont une bonne tête sur les épaules, OK? Donc, on donne pas ça à n'importe qui, là, mais si on a une bonne vision, une bonne compréhension du monde des affaires, un bon timing dans le marché et qu'un entrepreneur qui sait un peu ce qu'il a à faire pour atteindre un objectif, on lui donne 10 millions de dollars et on l'aide très rapidement à aller chercher un autre 40, 50 millions de dollars et que tu es entouré d'un Mark Lurie et de toute son équipe, la vérité, c'est que les probabilités de succès augmentent considérablement. Parce que oui, il y a des gens qui vont mal investir l'argent. D'où l'idée de bien qualifier les personnes qui vont recevoir cet argent-là. Mais la vision, elle est vraie. C'est-à-dire que souvent, des organisations qui vont vouloir être innovantes et changer les choses, c'est des organisations qui ont besoin de capital. C'est mathématique. On veut changer le monde. On a une idée. On a besoin d'ingénieurs. Les ingénieurs coûtent cher. Ainsi de suite. Et souvent, ces organisations-là ont besoin du 10 ou du 50 millions, mais ça va prendre 4-5 ans à avoir cet argent-là. Et au final, on est dans une course là, quand on est en technologie ou quand on est dans des business d'innovation. C'est pas pour rien que lui, ça va excessivement vite ce qu'il fait. Et quand je l'ai entendu parler de ça et qu'il a expliqué preuve à l'appui, exemple à l'appui, tout ce qu'il a fait, parce qu'il l'a pas fait une fois, là, le 10 millions qui commence avec ça, il l'a fait avec plusieurs organisations qui aujourd'hui, en plus de ceux que j'ai mentionnés, ont des valorisations dans les 10 chiffres. Okay? Donc, il l'a pas juste fait avec les trois exemples que je vous ai dit. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis tout de suite dit « wow ». Ma compréhension du capital afin d'accomplir des choses dans mon entreprise, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. C'est-à-dire que malheureusement, et ça, c'est peut-être à cause de nos antécédents judéo-chrétiens au Québec, je ne sais pas, ou est-ce qu'on a des petits soucis des fois avec la valeur de l'argent, mais une dette, une bonne dette, ou donner de l'équité, c'est une chose qu'à un certain point, on se doit de faire pour aller chercher encore plus de parts de marché et d'atteindre un autre niveau de croissance. Les affaires, ça coûte cher. On a besoin de capital, on a besoin d'avoir une vision plus grande des fois. Et en écoutant ça, sans nécessairement dire que je vais aller lever 10 millions de dollars demain pour une de mes entreprises, j'ai commencé à revoir un petit peu ma manière d'utiliser mon capital, j'ai commencé ma réflexion autour de comment je vais utiliser mon capital pour aller passer dans une autre étape de croissance avec mon entreprise. Et juste ça, tu vois, regarde, je suis pas dans l'optique d'avoir cet argent-là ou d'avoir la nécessité d'utiliser cet argent-là, mais de comprendre que, tiens, on fait pas d'omelette sans casser deux, là. Et à un moment donné, il y a une limite à simplement être bootstrap constamment et tout calculer à la scène près. Il y a des moments qu'on doit le faire définitivement, mais il y a des moments des fois qu'il faut, faire ces différentes actions si on veut passer à un autre niveau là.
Par contre, en faisant ça, faut accepter qu'on risque de rouler à perte l'organisation pendant un certain temps. Puis c'était les discussions qu'on a eues, Antoine, toi et moi, autant en Onde qu'à l'extérieur de Londres, où ce qu'on regarde, des organisations rouler des années et des années et des années dans du négatif. C'est entre autres le cas de Peloton qu'on va pouvoir parler tantôt. Mais c'est complètement un autre genre de gestion. Puis des fois, moi, je regarde ça à l'extérieur, je me dis, mon Dieu, comment un chef d'entreprise peut rouler aussi longtemps à perte puis être confiant que ça va être correct éventuellement, puis que tout le monde va avoir de la vraie valeur au bout de la ligne, puis que tout le monde qui a investi dans le business va avoir en partie ou en multiple l'argent qu'ils ont mis. C'est un chemin de croix en soi, puis c'est un autre genre de gestion, puis c'est une autre gestion du risque. C'est vraiment, c'est à complètement un autre niveau. Puis l'autre élément que je me questionne aussi dans ce genre de modèle-là, je connais pas bien là son histoire à Mark Lurie, puis peut-être ça va pouvoir ajouter des points là-dessus, mais on parle beaucoup de, il rentre, il va chercher du capital, il monte la valorisation, il sort avec un montant, il refait ça avec une autre entreprise. Je serais curieux de voir si on se projette dans 20, 30 ou 40 ans, est-ce que ces organisations-là qui ont parti, est-ce qu'il va encore subsister quelque chose de ça aussi? Ouais. Parce que diapers.com, j'ai aucune idée si ça existe encore aujourd'hui, puis si ça a la même vélocité puis la même empreinte positive nette sur les employés puis sur les clients. Mais ça va être quoi aussi de ces autres organisations-là? Parce que c'est bien beau qu'on ait une valorisation qui est impressionnante puis qu'on a de l'air à être à succès. Ouais. Et qu'on flippe un peu cet argent-là sur un autre projet, mais est-ce que ces projets-là vont perdurer à travers le temps? Ouais. C'est une autre question à se poser. Puis
ben écoute, l'avenir va répondre, dire. Pour répondre à ça, puis c'est un point qui est légitime. On s'entend que si l'entrepreneur ici essaye simplement de faire de l'ingénierie financière en essayant d'injecter le maximum de capital possible et en retirer deux ans après un tout petit peu de surplus de valorisation, sans avoir créé de valeur, juste pour dire c'est bon, j'ai fait peut-être $1 million, j'ai levé 10 millions, j'ai vendu l'entreprise 12 millions. Bon, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien d'intéressant ici et très rapidement, il va être vu comme quelqu'un qui est uniquement quelqu'un qui fait des flips. On pourrait dire ça comme ça en affaires. Donc, ce point-là est valide. Ceci étant dit, si on prend un petit peu les organisations que Mark Lurie a lancées, son point est plutôt de dire on part avec une vision qui est grandiose. Une vision qui est grandiose, littéralement changer la restauration, créer une restauration 2.0. Par la suite, bon, quand je te dis qu'il est en train de vouloir créer une nouvelle type de ville, un nouveau type de ville, ben ça, c'est l'innovation à un autre point. Une autre organisation qui est en train de lancer, qui s'appelle Jump, je crois. Encore une fois, je mettrai un lien dans les notes de l'épisode, qui est littéralement une application qui fait que quand tu t'envoies un match de baseball, de football, peu importe la catégorie sportive, et que tu es peut-être très, très haut dans les estrades, mais souvent, pendant la partie, il y a des gens qui vont quitter le match et il y a des sièges qui vont se libérer. Mais avec sa technologie, tu vas être capable de te connecter et de voir les sièges qui se libèrent et d'acheter le siège pour aller te rapprocher un petit peu plus du terrain de baseball pendant le match. Donc, tu vois, c'est toutes des innovations quand même assez profondes qu'on est capable de voir ici, qui est capable de créer. Ici, on revient à peut-être ses antécédents en affaires. Diapers.com, son objectif n'était pas, bon, du coup, bon, publiquement, là, n'était pas de vendre l'organisation. Vous irez le voir, là, il a été, ça a été des combats de requins, là, contre Jeff Bezos, là. Lui, il ne voulait pas vendre et quand il l'a vendu, il a été totalement à terre. Et ça l'a affecté. Il y a eu une dépression reliée à ça. Jusqu'au point où ce que Amazon, quand il y avait le combat entre diapers.com et l'entreprise qu'Amazon avait lancée pour combattre diapers.com au niveau de la vente de couches, Amazon avait tellement baissé leur prix qu'à chaque fois qu'ils vendaient, ils perdaient là, des 20 et des 30 $ à chaque transaction de couches simplement pour aller gagner les parts de marché pour que ultimement Mark Lurie puisse vendre son organisation. C'est pas pour rien que lui, par la suite, il est allé lancer Jet.com et qu'il a fait une association avec Walmart. Et si on regarde un petit peu, bon, donc vous aurez compris, Diapers.com a été absorbé par Amazon, n'existe plus aujourd'hui. Mais si on regarde Jet.com qui a été absorbé par Walmart, Ben, Jet.com, l'acquisition a été faite pour une seule et bonne chose, c'est de compétitionner Amazon au niveau du commerce électronique. C'est pas pour rien que par la suite, il est devenu CEO du commerce électronique pendant 2 ou 3 ans. Donc, la narrative a été très changée au niveau de la structure de commercialisation en ligne de Walmart au cours des dernières années. Ça, c'est grâce à lui. C'est lui qui a piloté tout ça. Donc, il y a quand même une bonne trace qu'il a été capable de laisser. Les nouvelles entreprises, seul le temps va nous le dire. Mais c'est sûr et certain que si on revient au point, et qu'on veut uniquement faire de l'ingénierie financière, je pense qu'il n'y a pas tellement de valeur à ça. Mais le point est quand même bon de se dire, si tu as de l'argent et que tu as accès à du capital rapidement et que ton idée est bonne, et bien entendu, tu as été filtré, tu es quelqu'un qui a un antécédent en affaires qui est positif, bref, on va dire que tout le monde autour de la table s'entend pour dire que tu as des chances de réussir avec ton idée et qu'on te donne de l'argent et que les gens autour de toi regardent ce que tu fais un petit peu, les possibilités de succès augmentent quand même assez rapidement. Et toutes les grandes entreprises qui ont changé le monde ont levé des grandes sommes d'argent. Mais il n'y a aucune, soyons honnêtes, il n'y a aucune énorme organisation, ben, très peu de grandes organisations dans le monde qui ont eu aucune capitalisation ou aucun montant qui a été investi. Donc, tu vois, moi, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Puis pour revenir à ton dernier point que tu as dit, je donne une très, très grande réponse à la question que tu as posée. Une entreprise qui roule à perte. Mais je pense qu'il y a 2 types d'entreprises qui roulent à perte. Hein? Des entreprises qui roulent à perte qui n'ont aucune valeur générée. Donc, on le voit, des fois, il y a des organisations qui ont juste... Ils roulent à perte et on voit pas la valeur. Il n'y a pas de revenus récurrents. Il n'y a pas de liste de clients qui se bâtit. Il n'y a pas vraiment une belle réponse des clients selon le produit qui est offert. Bref, il n'y a pas tellement de valeur. Il y a d'autres types d'organisations qui génèrent énormément de valeur, mais qui continuent de croître année après année, qui ont des marges de profitabilité brutes très élevées, mais qui veulent aller tellement vite qu'ils réinjectent l'argent pour aller chercher plus de parts de marché. Ces entreprises-là ont de l'équité, ils vont avoir une pérennité à travers les années comparativement aux premières. Donc, et je pense que c'est important de bien situer les 2 organisations, les 2 types, parce que il y en a une d'entre elles, effectivement, que j'aimerais pas gérer. La deuxième, c'est une tolérance au risque. Et s'il y a de la valeur qui se crée, ben, je pense qu'au final, la conclusion peut quand même être bonne pour l'entreprise, là.
Effectivement, à chaque fois, extraire à ce moment-là l'argent annuel qui est mis en capture de marché.
Exact.
Pour voir si l'entreprise, au final, est-ce qu'elle est nette positive.
Si tu enlèves les investissements marketing, les investissements vente et que tu gardes uniquement les revenus qui sont faits, est-ce que l'organisation est viable? Je pense qu'elle est là qu'elle a la question à se poser. Et encore plus, est-ce que l'organisation continue à grandir? Tu vois, très bientôt sur Hypercroissance, je vais recevoir une des personnes qui m'a... J'ai pas fait l'entretien encore, mais j'ai fait un appel préalable avec lui, Jonathan. La personne, encore une fois, excessivement impressionnante, Étienne Lacroix de Vention. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Vention. Une entreprise du Québec qui a une valorisation, je pense, pas tellement loin des 10 chiffres présentement. Ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars. Une brute, l'entrepreneur, excessivement impressionnant. Et bon, on n'est pas rentré dans le détail parce que c'était simplement un court appel, mais c'est exactement ça. Lui... Il arrêterait aujourd'hui ses investissements marketing à cause de la manière que le modèle est bâti, la croissance continue. Donc ici, la perte générée chaque année, il faut qu'il la génère quasiment. Parce que on voit que s'il arrête tout, ça continue à grandir. Donc les pertes mensuelles qu'il va faire, ben, parce qu'il va vouloir aller plus vite dans le marketing, c'est des pertes positives parce que on le voit très bien que l'entreprise, fondamentalement, elle a de l'équité, elle a de la valeur parce que si on arrête tout, ça continue à grandir. Ça, c'est des organisations, C'est des organisations qui souvent vont changer le monde.
Mais il faut toujours garder en tête ou avoir la foi que le modèle d'affaires ne sera pas désuet quand on va arriver à un plateau puis dire qu'on veut commencer à, excusez-moi l'expression, mais traire la vache un peu. Là.
Ben oui.
Donc, c'est cet élément-là qui, honnêtement, faut aimer le risque et puis être prêt à prendre le blâme si ça tourne du mauvais côté rendu là parce qu'il y a plein de monde qui investissent dans la business. C'est pas juste sa propre argent là, rendu à ce stade-là. C'est vraiment impressionnant. Et c'est peut-être là que notre culture ici au Québec, elle est différente des États-Unis. On en a parlé, entre autres, dans l'épisode concernant Dan Newman, que souvent, c'est valorisé. Quelqu'un a un échec. Les gens vont être plus enclins à prêter à cette personne-là qui a fait un échec monumental parce qu'ils se disent, ben, il a fait l'erreur, il la fera pas 2 fois.
Ben oui. Mais tu vois, un exemple qui est bon au Québec, et peut-être on pourrait terminer là-dessus, Jonathan, on parlera de Peloton dans un autre podcast, tant qu'être là, mais c'est Element AI qui s'est, il y a quelques années, de ce qu'on le fait énormément de millions, peut-être même des centaines de millions de dollars, je me rappelle pas exactement. Et bon, l'entreprise a été achetée 500 millions par une grande organisation américaine. Écoute, ils se sont fait ramasser, pardonnez-moi l'expression, dans les médias. On lève de l'argent, on veut changer le monde, on investit sur ci, et finalement, ça marche pas, on se fait acheter. Il y a plusieurs manières de penser ici, là. Tu sais, je crois effectivement, bon, peut-être que l'MNTI n'ont pas eu la conclusion, l'objectif, la finalité qu'ils désiraient. Tout de même, cette entreprise qui s'est fait acheter un petit peu plus d'un demi-milliard de dollars, là, oui, il avait levé beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais c'est un peu, et ça revient un peu au point de Mark Lurie qui disait, c'est que quand tu bâtis une masse critique dans ton entreprise où est-ce que tu lèves beaucoup d'argent et que tu as des gens de qualité dans l'entreprise, et écoutez, moi, j'en ai pas bâti des entreprises comme ça, je le sais pas, mais en l'écoutant, et ça me fait penser à l'MNDI, ce qui se déroule à un certain point, c'est que l'entreprise a de la valeur juste par son staff. Énormément de valeur juste par son staff. Parce que c'est des gens tellement de qualité. Donc, le pire qui peut arriver, c'est, et ce qu'on utilise en anglais comme terme, le acquire. Donc, tu te fais acquérir pas pour les actifs monétaires de ton entreprise, pas pour ta liste de clients, mais pour ton staff. Et ça, ça a une valeur. Et le meilleur exemple, c'est l'MNTI. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, le pire des cas qui va arriver, ça risque d'être un acquire. Écoute, tiens, si ça marche pas, il y a quand même ça qui peut se dérouler en bout de ligne, là.
Particulièrement quand c'est dans une technologie qui est en vogue ou dans un gros hype. On le voyait à la fin des années 90, les valorisations des organisations technologiques étaient seulement sur la quantité de gens. On prenait le nombre de têtes qu'il y avait dans l'organisation, il y avait un certain multiple qu'on pouvait mettre et ça, c'était la valorisation, même s'il n'y avait pas de modèle d'affaires, même s'il n'y avait pas de profitabilité, pratiquement même s'il n'y avait pas de vente. Fait que je pense que c'est des bulles. Puis entre autres, pour les MNTI, il était rendu à 257 millions de levées de fonds sur 4 rondes, qui est assez impressionnant au bout de la ligne. Mais
donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'argent, on s'entend, qui se fait au final. Là, quand l'entreprise est vendue un petit peu plus qu'un demi-milliard de dollars, je pense que c'était ça, 550 millions qu'elle a été. Donc, on s'entend, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a peut-être même eu des pertes. Hein, donc, on s'entend, peut-être qu'il y a eu des pertes dans tout ça, j'imagine, qui ont dû quand même limiter la casse, là. Sinon, il aurait peut-être attendu encore un petit peu avant de vendre tout ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire, grande vision, Vision Capital People, VCP. C'est un peu ça le point que je voulais dire aujourd'hui. Ça l'a marqué mon esprit. Ça a été un peu un choc de me dire, écoute, oui, petit train va loin, une étape à la fois. OK, n'y aurait-il pas d'autres options? Et sans nécessairement dire qu'on a besoin de 10 millions, est-ce qu'il y a une petite tranche d'informations qu'on peut prendre de ça et l'appliquer dans notre entreprise? C'est un petit peu la question qu'on va poser à nos auditeurs aujourd'hui.
J'imagine pour le bien de l'auditoire, ça va être dans la description du podcast.
On n'a pas le choix, là. Je peux pas parler de tout ça et ne pas mettre les liens, là. En tout cas, j'espère que ça va avoir donné envie à une ou deux personnes d'aller écouter un des podcasts de Mark Lurie. Je vous le conseille. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas assez mis en avant et qui devrait. Il y a une manière de penser qui est exceptionnelle. Il fait du bien pour la planète. Là, vous regardez ces organisations. Il y a toujours des causes quand même assez nobles. Donc, non, allez jeter un petit coup d'œil. Je pense que ça vaut la peine, là.
Bien intéressant. On va aller écouter ça. Absolument, Antoine.
Donc, Jonathan, écoute, c'était pas ça qu'on était supposé parler aujourd'hui, mais il faut croire qu'on aime parler business. On aime parler un petit peu de ce qu'on entend. Est-ce que toi, tu as envie au moins d'aller écouter ce que Mark Lurie fait?
Absolument. À date, toutes les références que tu me fais, quand je les écoute, je comprends pourquoi tu me les as fait. Puis c'est toujours à contenu, à valeur ajoutée. Merci Antoine pour le partage.
Au moins, on va avoir un auditeur qui va peut-être avoir été impacté par ça, donc on l'espère. Écoutez, c'est ça l'objectif un petit peu des discussions d'affaires du jeudi, c'est soit de parler de sujets d'actualité, parler de sujets de nos entreprises, en discuter ensemble, en équipe, Jonathan et moi. On espère que vous aimez le contenu. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast. C'est par quoi ça?